Bien, on va passer à la deuxième paracha, le deuxième paragraphe plutôt. Davar Acher. Vezot Abracha. Ze Shamar Akatuv. Mi Yale. Behar Hashem. David HaMelech dans les Tehilim, c'est le Shir Shalom du premier jour, enfin du premier jour de la semaine, dans lequel on dit Mi Yale Behar Hashem. Littéralement, qui montera sur la montagne d'Hashem. Donc c'est. On n'a pas le 172, oui. Alors, Verabanan Amre medaber me Moshe. Mi yale be'ar Hashem ze Moshe. Les Rabbanan disent que ça parle de Moshe. Ils font la dracha Mi yale be'ar Hashem ze Moshe. Qui est-ce qui montera? C'est Moshe. Shenemar ou Moshe ala el ha Elokim vegomer. C'est marqué dans le pasouk que Moshe est monté vers ha Elokim. Vers le Elohim. La suite du verset de Tehilim, Umi yakum bimkom kocho, et qui se tiendra dans son saint lieu. Là on dit aussi on dit Zé Moshe. C'est aussi Moshe. Minaïn, d'où savons-nous cela? Chez Neymar, dans le pasouk, il est dit Qui a makom asherata omed alav admat kodeshu. Ce verset, il a été dit à Moshe Rabbeinu au Sneh, au buisson ardent. Hashem lui a dit Cette terre sur laquelle tu te tiens, admat kodesh, c'est une terre de kodesh. Se tenir. Mi Yakum, c'est se tenir ici aussi. Neki Chapaim, c'est la suite du verset, n'est-ce pas? Neki Chapaim, celui qui a des mains propres. Ze Moshe, c'est encore Moshe. Minayin, Shenemar. Moshe Rabbeinu, quand on lui a fait des reproches, il a dit Lo chamor echad mehem nasati. Je n'ai jamais utilisé un seul de leurs ânes pour me déplacer, alors que je me déplaçais pour la collectivité. On peut imaginer que j'ai une voiture de fonction, un âne de fonction. Non, je n'ai pas utilisé d'âne de qui que ce soit. Ça, c'est ça, Neki Rapaim. Ouvar les vaves et un cœur pur. Zé Moshe. C'est encore Moshe. Alors, Amar Ravitzrak a dit, mais. Afilou Hediot, même Monsieur Tout le Monde, Imomer le Chavero Kazé, s'il dit à l'autre une chose comme celle-là, Gnaï Ulo, c'est dégradant. Et Moshe Amar, Lama Hashem Yechere Abcha Be'amecha, pourquoi Hashem te mets-tu en colère contre ton peuple? Elle a, il faut dire, libo barur alav, sheino tovea tzorech atzmo, el tzorkan shel Israël. Mais son cœur était barur. Barur, c'est en parenté avec ce bar levav. Barur, Seulement, Moshe Rabbeinu, il avait un cœur complètement pur, au sens où ce qu'il demandait, il ne le demandait pas pour lui, il le demandait parce que c'était une nécessité pour le clan d'Israël. N'est-ce pas? C'est ici, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il demande à Hachem, lorsqu'il dit à Hachem, pourquoi est-ce que tu te mets en colère contre ton peuple? C'est un passouk qui suit le Vaudor. Donc, à la limite, il faut une sacrée dose de chutzpah pour oser dire pourquoi tu te mets en colère? C'est-à-dire, on t'a trahi, c'est vrai, bon, il n'y a pas tellement de raison de te mettre en colère. Asher, la suite du verset de Tehilim. Asher lo nasa l'ashav nafsho. Et celui qui n'a pas porté, littéralement, porté en vain, nafsho c'est son âme. En fait, il faut lire nafshi, c'est mon âme. Enfin bon, ici c'est son âme. Il n'a pas élevé en vain son âme. Zou nafsho shel mitzri. Ça c'est l'âme de l'Égyptien que Moshe Rabbeinu a tué. Shelo netala al chinam. Il ne lui a pas élevé son âme, c'est-à-dire il ne lui a pas enlevé son âme gratuitement. Et là, kadin asam. Il l'a fait conformément à la halakha. Il avait le droit de le faire. Velo nishba le mirma. Il n'a pas juré, fait le serment, le mirma pour tromper, en ruse. Zemoshe. Shenema vayoel Moshe el hashevet et haish. Le pasouk dit que Moshe Rabbeinu, quand il était chez Yitro, il a juré fidélité en quelque sorte à Yitro, il a été quelqu'un de fidèle. La fin du verset, Issa bracha me'et Hashem, il portera, recevra la bracha venant d'Hashem, Zé Moshe. Amar Rav Tanchuma, al te ikore bo, ela yasi bracha l'acherim. Ne lis pas qu'il va recevoir, lui, Moshe, va recevoir la bracha venant d'Hashem. Mais li yasi bracha l'acherim, il transportera la bracha vers les autres. Donc, il prend cette bracha qu'il aurait pu prendre pour lui il veut évidemment il veut transporter la bracha pour les autres. Prendre une bracha qu'il mérite. Mais ici, ça, on veut dire que on veut dire qu'il ne prendra pas pour lui, mais il prendra pour les autres. Qu'est-ce que veut dire ce midrash? Dans la traduction, vous avez dans le la note 3 dans la page 173. Le pasouk qui dit Vezot Abracha, ceci est la bracha asher berach Moshe, que Moshe a donné au Bnei Israël. Et d'où est-ce qu'il avait une bracha à leur donner? N'est-ce pas? L'idée c'est, on peut pas, qu'est-ce que c'est que cette bénédiction? Est-ce qu'un homme peut bénir? Est-ce que pour bénir, il faut être capable d'être la source de la bénédiction? Or ici, justement, le Midrash a travaillé pour montrer que Moshe Rabbeinu, bien que n'étant pas la source de la bénédiction, mais il a obtenu de recevoir une bénédiction. Et cette bénédiction qui vient sur lui, il la transfère aux autres. Ah, j'ai oublié de prendre le téléphone. Est que la bracha, le Midrash ici, il a l'air de travailler là-dessus. Il a l'air de travailler sur le summum, c'est tout le Tehilim, là, ce fameux psaume 24, Kavdalet, d'accord, qu'on a interprété comme venant nous dire que chacun des points qui sont dits dans ce Tehilim-là, Moshe Rabbeinu, chaque point est personnifié en quelque sorte, il est réalisé par Moshe Rabbeinu. Et c'est ça qui le qualifie, Moshe, pour recevoir la bracha. Issa bracha me'et Hashem. Zé Moshe. Moshe Rabbeinu va recevoir la bracha venant d'Hashem. Cette bracha, elle est la conséquence de tout ce qui a été dit ici. Donc lui, il s'est qualifié pour la recevoir. Il reçoit vraiment la bracha de la source de la bracha, c'est-à-dire d'Hachem. Et maintenant, lui, il transmet cette bracha. Il ne la garde pas pour lui, il la transmet au Bnei Israël. Le Midrash explique « Zot ha-bracha asher berach Moshe ». Cette bracha, zot ha bracha, quelle bracha? La bracha qu'il a reçue, lui. Avec ça, il a été mevarech l'Ebnei Israël. Avec ça, il bénit l'Ebnei Israël. C'est-à-dire, il transfère. Non. Il s'efface complètement devant le clan Israël. Voilà. Alors les commentateurs là sur le qu'est-ce qu'ils disent ici eux que dans le pérouge du Marzou, vous avez photocopié ce texte-là, cette page, oui. Alors prenez dans la colonne de gauche, la grande colonne de gauche, vous vous avez au Kignai hu lo. Il commente ici le point où le Midrash dit, mais comment est-ce que Moshe Rabbeinu a pu dire Lama Hashem yichrira pra be'amecha? Comment Hashem, pourquoi Hashem est-ce que ta colère éclate contre ton peuple? Alors, le Midrash avait dit, mais c'est incroyable une chose pareille. Comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille? C'est n'importe qui dirait une chose. Il dit, Im yavo Reuven, le Beit Shimon. Si Reuven vient dans la maison de Shimon, pour y mettre le feu, pour tout casser, pour tuer les fils de Shimon, Shimon se met en colère contre lui. Qui est-ce qui va venir dire à Shimon, pourquoi tu te mets en colère? Car Israël chatou chet sheroim lechalot. Ils ont fauté et ils méritent d'être détruits. Ou Moshe Omer lama Hashem yichera abcha be'amecha. Pourquoi Hashem tu te mets en colère contre ton peuple? C'est et la al she Hashem idbar ramaz le Moshe. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu nous permet de parler comme cela? Comment est-ce que Moshe Rabbeinu se permet de parler de la sorte? Parce que Ramaz, Hashem Yitbar, Ramaz le Moshe. Akadosh Baruch Hu a fait un remède, il a indiqué à Moshe Rabbeinu, au moment où les Bnei Israël ont fait ils ont construit le veau d'or. Alors, Hachem a dit à Moshe, il lui a dit, Anicha li, laisse-moi, je vais détruire le clan d'Israël. Alors, Moshe Rabbeinu a entendu dans cette parole d'Hachem, c'est étonné, je t'empêche, est-ce que je t'empêche de détruire? Hachem dit, laisse-moi, je vais détruire le clan d'Israël. Alors, Moshe Rabbeinu a entendu ici qu'il y avait une place pour son plaidoyer. Il y avait quelque chose à faire, je pourrais donc m'y opposer. C'est ça l'idée. Je peux m'opposer à ce qu'Hachem détruise le clan d'Israël. Et si je peux m'opposer à ce que clan d'Israël détruise, à ce qu'Hachem détruise le clan d'Israël, alors je dois m'opposer. Enfin, en tout cas, si j'aime le clan d'Israël. Donc il a compris qu'il pouvait prier. Et il a compris que pour pouvoir prier, il est obligé d'essayer de l'actin, achet. Il faut diminuer la faute. Il faut qu'il travaille pour faire apparaître la faute comme n'étant pas aussi grave, parce que la faute est terrible. Donc il faut travailler pour que la faute n'apparaisse pas aussi terrible. Bien. Alors, Moshe Rabbeinu s'est qualifié donc pour obtenir cette bracha. Alors, dans le Etz Yosef, dans la colonne de droite, il explique que Moshe Rabbeinu, She'eino tovea atzorech atzmo. Moshe Rabbeinu ne demande rien pour lui. Il ne demande pas l'iyot melech alehem. Shein melech beloam. Et la kol ikar magamato aya bishvil she inatzlu Israël. C'est pas ce que dit le Etz Yosef. Il veut dire, on pourrait imaginer que même lorsque Moshe Rabbeinu demande à ce qu'Hachem pardonne au clan d'Israël, c'est-à-dire ne le détruise pas, On pourrait dire, mais Moshe il fait un plaidoyer pro domo parce que il est le roi. Il n'y a pas de roi sans peuple. Donc quand il prie pour que le peuple existe, en fait, on pourrait dire, mais il prie pour lui finalement. Il prie parce qu'il est roi et il va se retrouver roi sans peuple. Alors le Et Yosef dit non, c'est ça le plan du Midrash. Il dit pas du tout. Kol ikar magmato aya bishvil sheinatzlu Israël. Ce qu'il voulait, c'est qu'Israël soit sauvé. Il ne voulait rien d'autre. Enfin, il ne veut pas du tout, il n'a pas de projet pour lui dans toute cette affaire. Et c'est en fait ça qui que le Midrash veut mettre en évidence. Mais ce que je voudrais faire, c'est, on va quand même regarder les différents points pour voir ce qui se construit là dans ce Tehilim qui est dit sur Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on dit de Moshe? Qu'est-ce que le Midrash dit ici de Moshe, qui sont des choses qui qualifient Moshe pour recevoir la bracha et qui montrent que cette bracha que Moshe Rabbeinu va recevoir, on est en droit de lire non pas Yissa bracha me'et Hashem, mais comme dit Rav Tanchuma, Alti korebo ela yassi bracha l'acherim. Ne lis pas que Moshe Rabbeinu a reçu la bracha, mais yassi, il transmet. Mais évidemment, pour faire une telle lecture, il faut avoir des raisons de faire une telle lecture. Il faut que dans ce qui a été dit de Moshe Rabbeinu, on entende ce souci pour l'autre. Ce souci de Moshe Rabbeinu pour l'autre. Et que justement, la bracha, c'est curieux, la bracha que Moshe Rabbeinu reçoit, c'est celle-là qu'il va transmettre. Ça va être assez difficile, parce que les brachot que Moshe Rabbeinu a donné, c'est les brachot pour chacune des tribus. Il a donné une bracha aux différentes tribus en fonction de ce que sont les tribus, donc en fonction de la tâche que chaque tribu a dans la construction du clan Israël. Alors ça aussi, il faudrait comprendre comment la bracha que Moshe Rabbeinu va recevoir, comment cette bracha, est-ce qu'elle peut se ramifier, se décomposer en la bracha qu'il va donner à chacune des tribus. Une bracha que quelqu'un reçoit, comment est-ce qu'on peut la redonner à tous en ne la donnant pas, si vous voulez, comme la même à tous. Ce que Moshe Rabbi nous donne dans cette bracha, c'est une bracha à chacune des tribus. Donc c'est pas du tout qu'il a donné la même. Bon, donc si on avait cette situation où Moshe Rabbi reçoit une bracha, et puis bon, il fait un copier-coller et il envoie la même à toutes les tribus. Là, on pourrait comprendre que Moshe Rabbeinu a transmis la bracha. Bon, ce serait de la générosité, mais bon, il y a une transmission de la bracha telle qu'il l'a reçue. Mais ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une bracha qui va se spécialiser. Yechi Reuven Va'al Yamot, Vim Et Hamispar, Zot Liyuda, le Lévi Amar, etc. Donc à chacun, il va donner une bracha qui est ad hoc. Mais si notre problème c'était, mais pour donner une bracha, je peux donner une bracha, où est-ce que je vais la prendre, cette bracha? Donc pour donner une bracha, il faudrait qu'on soit dépositaire d'une bracha. Et pour être vraiment dépositaire de la bracha, alors voilà, la Torah nous dit, oui, La bracha, Issa bracha me'et Hashem. Mais c'est pas cette bracha-là qu'il a donnée. Donc il faudra qu'on travaille par la suite justement pour passer de cette bracha, c'est pas obligatoirement dans ce texte-là, de cette bracha qu'il a reçue au brachot qu'il a donné. Donc auparavant, je voudrais voir avec vous les différentes les différents points que le Midrash met en évidence. Il n'y a pas il va expliquer, le Midrash va utiliser donc ce Hashem Haaretz Umloa Tevel Yosheva, donc l'introduction, on la saute. D'accord, peut-être vous voulez Raymer, vous avez un télim devant vous, je vois, oui. Vous voulez lire le début pour savoir ce qu'on a sauté. Tout le monde connaît, c'est le télim de dimanche. Donc d'abord, c'est ce télim là, il faut savoir, c'est le télim du premier jour de la semaine. D'accord, c'est celui qu'on lit à la fin de la tfila, chez nous le dimanche donc. Et comme vous savez, il y a un Tehilim qui, un chapitre de Tehilim qui est associé à chaque jour. Et d'après le Gaon, chaque Tehilim du jour est en fait l'expression du problème qui est né avec la création qu'Hachem a faite ce jour-là. Si vous voulez, qu'est-ce qui a été créé le premier jour? Ciel et la terre. Donc la terre va poser problème. Alors on a les fameux deux versets que tout le monde connaît, contradictoires, semble-t-il, sur la terre. Celui que nous disons dans le Hallel, Aretz Natan Livne Adam, que Hachem a donné la terre aux hommes. Et celui-là, qui dit l'Hachem Haaretz Umloa, donc la terre appartient à Hachem, elle et tout son contenu. C'est contradictoire, ou alors ça a été donné aux hommes, ou bien ça a été donné, ou est-ce que cette terre elle appartient toujours à Hachem? Alors, Hachem nous a donné la terre. Seulement, il nous a donné la terre pour que nous puissions la donner à Hachem. C'est-à-dire Hachem nous donne la terre, il nous met à disposition la terre pour que nous puissions reconnaître que finalement, ultimement, elle est toujours à Hachem. C'est-à-dire que le fait, ou si vous préférez, le fait que la terre soit à Hachem n'empêche pas qu'elle soit à nous. Mais du point de vue d'Hachem, c'est possible. À nous de faire en sorte que de notre point de vue cela soit possible également. À nous à faire en sorte, si vous voulez, que de se sentir propriétaire, dépositaire de la terre, ne nous empêche pas de reconnaître que la terre appartient à Hachem. Donc il faut lui redonner la terre. Elle et tout son contenu. Donc ce point-là, il n'est pas utilisé ici. Dans notre chapitre, mais il faut l'entendre. C'est le contexte, c'est ça. Le contexte, c'est d'un. Il faut redonner à Hachem ce qu'Hachem nous a donné, en quelque sorte.
Continue. Donc, deuxième pasouk. Kihu al-yamin yesada ve'al ne'avot
yechonenea. Parce que lui, il l'a fondé. C'est le yosod, les fondations. Donc, il l'a fondé sur l'eau. La terre, on sait bien que la terre elle est fondée sur l'eau. L'Agma dans Ragiga nous dit, on sait bien que c'est sur du liquide, quoi, quelque part. On dit Roka Haaretz al Hamaim tous les matins. D'accord ? C'est-à-dire, Hachem, il étend la terre sur l'eau, sur du liquide. Vous si vous voulez, vous pouvez boire ça sous forme d'un magma liquide, mais peu importe, c'est pas obligatoirement physique. Ça, c'est donc, à la limite, pourquoi elle est à lui? Ben, c'est lui qui l'a fondée, il la fonde en permanence. Et donc, voilà, ce premier verset, Mi Yale Bar Hashem, qui va monter sur la montagne d'Hashem? Quel est le problème? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va monter sur la montagne d'Hachem? Est-ce que quelqu'un est... Si la montagne d'Hachem, c'est le Beth Amikdash, mais alors tous les gens qui vont au Beth Amikdash sont montés sur la montagne d'Hachem. Il y a une montagne sur laquelle personne n'est monté, sauf Moshe. C'est le Sinaï. Il y a donc une montagne qui n'est pas finalement... c'est assez curieux, c'est pas ce qu'on appelle Har Hashem d'ordinaire. Har Hashem, c'est le Beth Amikdash. On demande qui va monter Be Har Hashem et on répond Moshe Allah El HaElokim.
Moshe Rabbeinu est monté Be Har HaElokim.
C'est la montagne d'Elohim. Il est monté vers Elohim. C'est vrai qu'il est monté sur le Sinaï. C'est le pasouk ne semble-t-il ne dit pas exactement ce qu'on attendait. Nous on attend quelqu'un qui monte Behar Hashem. Alors qu'est-ce que disent les Mi Yale Behar Hashem. Alors, Rashi dit Mi Yale Behar Hashem. Il dit Afalpi, bien que chez Kol Yoshvei Tevel, chez l'eau, bien que comme on vient de le dire, tous les gens qui sont sur terre lui appartiennent et que tout ce qui est sur la terre lui appartient. Et in hakol kedai leikarev elav. Tout le monde, tout ne peut pas s'approcher de lui. Tout ne peut pas s'approcher d'Hachem. Et là, la condition pour pouvoir s'approcher, ce sera ce qui est dans le verset suivant, ne kichapaim. Celui qui aura les mains propres et Var Levav, etc. Ça, c'est Rashi. Et Ibn Ezra dit sur le Mi Yale Behar Hashem. Ibn Ezra dit ce que nous avons tous compris, qu'en fait, c'est Har Hashem, c'est Har HaMoria. C'est le Har HaMoria, c'est-à-dire la montagne sur laquelle se trouve le Beth Amikdash. C'est la montagne sur laquelle Abraham Avinu a fait la Akeda. Lui dit que ce chapitre de Tehilim, David l'a composé après avoir acquis justement la montagne en question, le lieu sur lequel il voulait construire le Beth Amikdash, qu'Hachem n'a pas laissé faire, mais c'est quand même sur ce lieu-là que le Beth Amikdash a été construit. Donc c'est un peu surprenant. Mi Yale Behar Hashem. Alors comment est-ce qu'il faut lire ça? C'est après que, effectivement, le Metsudat David, il dit quelque chose qu'on avait vu dans la Masechet Hagiga. Lui, il ajoute à ce qu'a dit le Ibn Ezra, que En Kulam Reuim Lavo Be'ar Hashem, que tout le monde ne mérite pas, ne peut pas monter sur cette montagne d'Hashem, c'est dans le Bet Amigdash. Et comme c'est marqué dans le Pasuk, Mim Bikesh Zot Mietrem Ramot Chaserai. Qui vous a demandé de vous presser dans mes parvis? Je me souviens de la Gemara dans Hagiga où Hashem dit on avait eu ce problème. Dans la Souga des pleurs là-bas, qui vous a demandé de venir? Je ne vous ai jamais invité à venir. Et Shaya, oui, c'est au début du Shaya. Donc, si vous voulez, c'est pas le pshat du verset que le Midrash est en train de nous donner. Le Midrash, ici, il est en train de... Il a décalé. Au lieu de parler de Har Hashem, il parle de Moshe qui est Allah El Elohim directement. Comme si... Cette ascension de... Évidemment, Moshe Rabbeinu n'est jamais monté sur au Beit HaMikdash. Il n'est jamais, il n'a rien de spécial à voir avec Har HaMoria. Il n'est pas entré en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu. Bon, donc, quelque part, si Har Hashem, il faut l'entendre, la montagne d'Hashem, c'est-à-dire le Makom HaMikdash, Moshe Rabbeinu n'y est pas entré, n'y est pas monté. Et donc, ça veut dire quoi ici? Que le Midrash nous parle de quelque chose qui en fait on comprend pas, on comprend pas comment est-ce qu'on peut dire que c'est Moshe. Alors, il faut dire justement que ce Midrash, il a pris, on peut presque dire un parti pris, ici, de lire ce Tehillim pour construire la dernière phrase, la remarque de Rabbi Tanhuma, c'est-à-dire d'indiquer des choses que Moshe Rabbeinu, d'une certaine manière, est seul à avoir fait. Bon, ce qui singularise complètement Moshe Rabbeinu. Alors, effectivement, Har HaMoria, si c'était Har HaMoria, alors mi yaleh b'Har HaMoria, c'est tous les gens qui vont aller au Beit HaMikdash. Alors même si on dit tout le monde ne mérite pas d'aller au Beit HaMikdash, il faut avoir Neki Rapaim, il faut effectivement être quelqu'un d'intègre, etc. C'est, ça c'est vrai. Mais à ce moment-là, ça ne singularise pas particulièrement, enfin même pas du tout Moshe Rabbeinu, puisque le Beit HaMikdash, il n'a pas été construit du temps de Moshe Rabbeinu. Alors, il faut peut-être dire que, si j'osais, je dirais que finalement, le Beit HaMikdash, c'est la solution fixe, vous voyez, qui remplace le Mishkan. Et le Mishkan, c'est ce qui a remplacé le Sinaï. N'est-ce pas? Le Mishkan, il vient, c'est une discussion pour savoir s'il vient comme réparation, mais il vient comme réparation de la faute du Vaudor. C'est-à-dire, et le Vaudor, il a invalidé le Sinaï. Le Vaudor a annulé tout ce qui avait été fait au Sinaï. Et ensuite, ça a été remplacé par le Mishkan. Le Mishkan, bon, il a été remplacé par le Beit HaMikdash. Alors, on voit une progression d'un côté. D'un côté, on peut aussi considérer que, bon, on avait besoin de quelque chose de plus quelque chose en dur, etc. Comme David Ameller dit, oui, c'est pas possible qu'Hachem soit dans une tente et moi je sois dans un palais. C'est très bien, mais c'est un raisonnement d'habitants de palais. Les Bnei Israël n'étaient pas dans les palais, quand ils étaient dans le Sinaï, quand ils étaient dans le désert. Donc ils avaient le Mishkan était parfaitement adéquat. Il n'y avait pas de. Il n'y avait rien qui mettait le Mishkan, disons, comme étant quelque chose d'inférieur à ce que le roi. C'est pas que Moshe Rabbeinu avait une résidence plus somptueuse que le Beit HaMikdash. Il n'y avait pas ce problème-là. Et si on considère que, au fond, il y a presque une dégradation, que le summum, c'est quand même le Sinaï. Au Sinaï, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui est monté. Et là, c'était mieux encore que d'être seulement Behar Hashem, c'était vraiment d'être El HaElokim. Il allait même plus loin que le Har Hashem. Ou peut-être c'est ça le vrai, comme si Har Hashem n'était que le remplaçant de El HaElokim, cette montée. Oui. Que ça l'aurait ?
Ça aurait remplacé Moshe lui-même en tant que réceptacle de la lumière, le réceptacle lui-même, le Michel aurait remplacé Moshe lui-même en tant que réceptacle de la
Non, mais pour, d'abord ils ont coexisté, Moshe et le Michel. Non, mais le Sinaï, ça veut, quand on parle du Sinaï, on veut pas dire, on veut dire l'expérience de la révélation du Sinaï, c'est de ça qu'on parle. Donc Moshe Rabbeinu ala El HaElokim Umi Yakum Bimkom Kocho Zé Moshe, et on répond, d'où est-ce que, sur quoi on se base pour dire ça? Minain shenema ki hamakom asher ato omed alav admat kodesho. Littéralement, c'est qui ce Yakum? Littéralement, Yakum c'est se lever, et c'est aussi se tenir debout, en fait, qui pourra se tenir en son saint lieu. Vemakom kodesho. Plutôt, à l'endroit de sa sainteté, qui est saint pour lui. Le makom, la sainteté du lieu, si vous voulez, cette expression-là, elle n'est dite que sur le Sinaï, juste. Enfin, c'est aussi le Sinaï, parce que le buisson, c'était au Sinaï. Le buisson ardent, c'est le Sinaï. Et donc on dit, Moshe Rabbeinu, il s'est tenu effectivement, il ne le savait pas quand il y était, mais on le dit, c'est Admat Kodesh. Et donc, Moshe Rabbeinu est à la fois celui qui monte et celui qui peut se tenir à cet endroit-là. On a déjà dit plusieurs fois que ce n'est pas du tout évident, ce sont deux choses distinctes. On peut très bien monter, mais être incapable de se tenir, au sens suivant. Si quelqu'un gravit une montagne, alors il va gravir progressivement et il va s'habituer, par exemple, à la raréfaction de l'oxygène. Ce qui fait que quand il arrivera en haut, il pourra se tenir en haut parce qu'il y est monté lentement. Mais si on le parachute, on le pose au sommet de la montagne, il ne pourra peut-être pas se tenir. Parce qu'il n'y a pas eu la préparation pour y monter. Il arrive et il n'y a pas assez d'oxygène, il ne pourra pas, si vous voulez, dans l'image, il ne pourra pas se tenir. Qui pourra se tenir là? Donc pour pouvoir se tenir là, dans cette situation-là, être capable de tenir le coup, si vous voulez, à cet endroit-là, Il faut des qualités particulières. Alors, Moshe Rabbeinu est à la fois celui qui Allah, il a pu monter, et puis il est aussi celui qui a su se tenir. Alors, évidemment, c'est pas le même moment. Il a d'abord su se tenir à l'endroit où il était, qui était un endroit plat, complètement, c'était le désert. Voilà. On lui a dit, voilà, Admat Kodesh, il faut que tu enlèves tes chaussures, c'est tout. Il faut que tu tiennes compte de ce que ce lieu-là est un lieu saint. Donc, comme dans le Beth Amikdash, on doit aller nu-pieds, il faut avoir un contact direct avec le sol du Beth Amikdash. Les Kohanim n'avaient pas de chaussures, c'était nu-pieds. Et de la même manière, on a demandé à Moshe Rabbeinu, à cet endroit-là, il faut être nu-pieds. Il faut reposer directement sur la terre, en fait. Et cette terre-là, hein, c'est une terre qui a, semble-t-il, s'appelle un lieu kadosh, un lieu saint. Admat Kodesh. C'est pas la forme grammaticale qu'on attendrait pour dire que c'est une terre sainte, n'est-ce pas? C'est Admat Kodesh, la terre du Kodesh. C'est presque comme si on voulait dire c'est la terre qui appartient à Kodesh. La terre qui est propriété du Kodesh. Admat Kodesh. La terre n'est pas sainte. Elle n'est pas sainte par elle-même. Mais elle appartient au Kodesh. Et parce qu'elle appartient au Kodesh, alors elle a une certaine sainteté. Je suis obligé de la traiter en tenant compte du propriétaire, en quelque sorte, de celui auquel elle appartient. Mais elle n'a pas de sainteté en elle-même. Alors on dit, voilà, Moshe Rabbeinu, lui, il peut se tenir. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous apporte ici par rapport à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que ça nous dit de Moshe Rabbeinu? Essayez de le penser par rapport au fait qu'il va recevoir la bracha et que cette bracha-là, il va la transmettre au clan d'Israël. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui est capable de se qualifier en montant. Il est capable de monter parce qu'il s'était d'ailleurs préalablement qualifié en étant capable de se tenir là où il a été, puisqu'il ne savait pas où il allait. Donc là-bas, il a été au Sné, devant au buisson, il a comme été parachuté à cet endroit-là. Puis après, on a regardé, est-ce que tu peux te tenir? Alors on a dit, oui, pour te tenir, il faut que tu enlèves tes chaussures. Et à ce moment-là, il a su se tenir. Et puis ensuite, au Sinaï, quand Hachem lui a dit de monter, il s'est monté. Il est capable de monter. La question c'était, mais Yahalé, qui va pouvoir monter? Et la réponse, c'est Moshe. Moshe est monté. Donc c'était qui sera capable de monter? On a répondu, Moshe, c'est Moshe qui y est monté. Monté El Ha'elokim. Lui, il a pu s'approcher. Donc l'accent est mis sur la capacité de Moshe Rabbeinu de s'approcher d'Hachem. Il est capable de s'approcher, il est capable de se tenir près d'Hachem et de s'en approcher. Ensuite, on dit, pour cela, qui pourra le faire, mais y aller? Celui qui est Neki Chapaim, celui qui a les mains propres. Neki Chapaim, les mains propres, c'est un problème d'intégrité. C'est ce que Moshe Rabbeinu nous dit, même si en réalité, puisque je me déplaçais pour le clan Israël, donc j'aurais très bien pu me déplacer aux frais du clan Israël. Alors je n'ai jamais rien demandé à quelqu'un d'autre, j'ai pris de ce qui qui était à moi. En quelque sorte, je suis venu avec ma propre voiture. Tout ce que j'ai fait pour le clan d'Israël, tous les déplacements, je les ai fait avec ma propre voiture. Je n'ai jamais emprunté la voiture de qui que ce soit pour cela. C'est ça, Neki Chapaim. En fait, c'est une... cette question-là, quand... enfin, disons, cette réponse, Lo chamor echad mehem nasati, c'est une réponse que Moshe Rabbeinu fait. Moshe Rabbeinu fait cette réponse au clan d'Israël qui l'accuse en quelque sorte. Le clan d'Israël a eu la chutzpah d'accuser Moshe Rabbeinu. Il accuse Moshe Rabbeinu de faire des choses pour lui. Il l'accuse. Le pasouk dit ici. Prochaine dans cette histoire de c'est l'histoire de Korach. Korach accuse Moshe. Korach, Datan, Aviram, etc. Tous ces gens-là viennent et ils accusent Moshe. Et le pasouk dit Vaïchar le Moshe me'od. Il a été très touché, Moshe Rabbeinu, et il a dit à Hachem, n'acceptent pas leurs offrandes. Parce que lo chamor echad mehem nasati velo areoti et achad mehem. Il m'accuse. Tu nous as rien donné, tu nous as trompés, etc. Tu prends pour toi, tu as placé tes gens, etc. Alors mon cher ami nous répond. Et il faut pouvoir répondre. Il a répondu, il était en train de répondre à Korach, c'est devant Hachem, donc il peut répondre quand il dit Lochamor Echad Mehem. Le clan d'Israël avait une attitude très désagréable, qu'il a eue d'ailleurs à l'égard de Shmuel aussi. Le Navi Shmuel, il dit quasiment les mêmes mots aussi. Lui qui était donc le itinérant et qui allait voir chacun, il dit, mais j'ai jamais pris le... Je leur ai jamais rien pris. Je n'ai jamais rien demandé alors que j'allais pour eux. Ça veut dire que les grands sont souvent accusés, des gens qui sont complètement désintéressés, ils sont accusés du contraire en fait. Donc, mon cher Abinou est inattaquable. Neki Chapaim. N'est-ce pas ? On voit ici que si on n'est pas Neki Chapaim, si en acte, on n'est pas naquis, on ne peut pas se tenir. C'est pas possible. Tu ne peux pas te tenir devant Hachem. Tu ne peux pas monter sur la montagne. Le pasouk de Yeshayahu qu'on a cité, où Hachem dit, mais qui vous a permis de venir vous presser comme ça dans mes parvis, alors que vous conduisez affreusement mal? Hachem dit, mais des gens qui se conduisent comme ça, j'en veux pas. Je ne veux pas de vos corbanotes. Je ne veux rien de vous. C'est ce que Moshe Rabbeinu lui demande d'ailleurs. Il demande, n'accepte pas leurs offrandes. Ils vont venir, ils vont te faire des offrandes, etc. N'accepte pas. Bar Levav, il ne faut pas seulement qu'en acte, mais dans son cœur. Dans son cœur. Quel est le critère pour savoir que dans son cœur, mon cher Rabbeinu est clair, archi clair? Qu'est-ce que ça veut dire clair? C'est absolument clair qu'il ne pense pas du tout à lui. Alors, le critère, c'est qu'il ose dire à Hachem, il ose parler, Lama Yechera Abraham Be'amecha. Ça, c'est possible seulement. Ça n'est possible qu'à quelqu'un qui est absolument clair, au sens c'est, il est absolument clair qu'il ne demande rien pour lui, qu'il n'est pas en train de faire un plaidoyer pro domo. C'est pas du tout. Je veux avoir un peuple pour en être le roi. Libo barur alav she'en oto ve'atzorech atzmo. C'est absolument clair qu'il est en rien en train de demander quelque chose pour lui. il demande vraiment que, alors il peut se payer le luxe de parler d'une façon qui est, comme dit le Midrash, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut parler de cette manière-là? N'est-ce pas, c'est... Ça pardonne pas. Devant Hachem, tu peux pas parler comme ça. Sauf si tu es vraiment complètement naquis. Ça veut dire en acte et dans son cœur, c'est clair qu'il est complètement, entièrement désintéressé. Et ensuite, Asher lo nasa nashav nafsho. Il y a un moment où mon cher Avinu a fait quand même quelque chose qui pourrait le disqualifier complètement. Il a quand même tué cet Égyptien. C'est tuer quelqu'un, c'est... Sauf, c'est quoi? C'est un meurtrier? Celui qui peut monter sur la montagne, qui peut se tenir, etc. Mais finalement, il a tué quelqu'un. Alors, il lui a enlevé son éphèche. Alors le Midrash dit non, ça c'était, c'est Kadin. C'est absolument, il n'y a rien non plus là, il n'y a pas, il s'est mis en colère contre l'autre qui lui résistait ou n'importe quoi, c'est, là aussi c'est, l'on est là, il ne lui a pas pris son âme al-khinam, il ne lui a pas pris ça gratuitement. C'est Kadin. Bon, il y a donc par rapport au meurtre, par rapport maintenant au vol ou à la tromperie en quelque sorte, la ruse. Alors le Etz Yosef dit. Ils disent tous la même chose, d'ailleurs le Marzou aussi, que Vayoel Moshe a juré, il a juré à Yitro, Shelo Yalech Chutz Midato. C'est-à-dire qu'il a juré que je ne partirai pas sans avoir ton accord en quelque sorte. Et quand Hachem l'a envoyé en Égypte, donc il était obligé de partir de chez Yitro, il est allé pour annuler son vœu, enfin annuler son serment, lui faire annuler son serment. Il n'est pas parti sans, même s'il partait sur l'ordre d'Hachem, mais sur l'ordre d'Hachem, il a aussi veillé à ce que sa parole soit une parole qu'il tienne. Quelqu'un qui a une parole et qui la tient. Même si on pourrait dire, ok, quand je me suis engagé à ne pas partir, mais c'est l'ordre d'Hachem, c'est tout le monde obéit à Hachem. Il faut quand même aller demander en quelque sorte la permission à Yitro de partir. Donc si on résume ce qui en fait qualifie mon cher Rabbeinu pour recevoir cette bracha, c'est sa capacité de s'approcher d'Hachem, d'avoir tant dans sa conduite par rapport au matériel que dans la façon de que ce qu'il pense au plus profond de lui-même concernant justement sa position relative au clan Israël, c'est-à-dire je suis le roi, j'aurais pu réquisitionner leurs ânes ou etc. pour faire le travail, Et puisque je suis le roi, je suis peut-être intéressé à avoir un peuple. Non, c'est pas pour ça que je plaide pour le clan d'Israël. Je plaide pour le clan d'Israël, vraiment que pour lui. Et il y a deux points, le problème du meurtre et le problème de... Il a été recueilli par... Il a une dette de reconnaissance à l'égard d'Yitro, qu'il a recueilli quand même. Il a recueilli, qu'il lui a donné sa fille en mariage. Il s'est engagé vis-à-vis de lui. Il est là aussi complètement net, dans la parole, dans les actes. Même quand il est obligé de faire quelque chose, il sent qu'il est obligé de faire quelque chose, c'est pas du tout pour lui. C'est Alpidine. C'est ces points-là, semble-t-il, qui qualifient Moshe Rabbeinu pour recevoir la bracha. Et on voit très bien que dans ces choses qui qualifient, il faut qu'il y ait un désintéressement complet. Donc, il y a ce désintéressement de... Je n'ai pas travaillé pour avoir un royaume. Je ne travaille pas pour prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Même quand il faut tuer, je tue. Sans aucun... je suis fidèle. Je suis quelqu'un de fidèle, de fiable. Mon oui, ma parole est une parole.
Oui.
C'est marqué Vahi Bishurun Meler. Il y a eu en Yeshurun, Yeshurun c'est un des noms du clan d'Israël. Il y avait un roi, le roi Zeh Moshe Rabbeinu. C'est comme ça, la royauté dans le clan d'Israël, elle n'a pas commencé avec Shaoul. Il y avait une royauté, mais ce n'était pas une royauté qui avait des formes de royauté. Il était Meler. Il était le dirigeant du clan d'Israël. Qui? Il n'y avait pas de clan d'Israël avant.
Non.
Qui? Abraham, il était tout seul. Qui? Il était tout seul. Il n'avait pas de peuple. Depuis la naissance d'un peuple, le roi, c'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Yoshua, par la suite, il est aussi quasiment roi. Shmuel, on dit qu'il était roi aussi. Mais c'est des rois qui n'ont absolument pas de cour, ils n'ont pas de... Il n'y a pas tout l'appareil royal. Et justement, ils ne se permettent rien. Dans le deuxième chapitre de Sanhédrin, on avait vu les prérogatives royales, tout ce qu'un roi peut faire, ce qu'il peut saisir comme bien, ce qu'il peut imposer au peuple, etc. Eux, au contraire, que ce soit Moshe ou Shmuel d'ailleurs, sont des gens qui sont totalement au service du clan d'Israël. Ils sont rois, mais leur royauté, ça n'est pratiquement que des obligations. Je m'étais demandé d'ailleurs en son temps, la Gemara dans Kiddushin, elle définit la paternité. Et dans la paternité, elle définit en fait une suite d'obligations. Faire la mila, le racheter, l'éduquer, trouver une femme, lui apprendre un métier, ça, que les obligations. Il y a quasiment, par rapport à un garçon, il n'y a aucun droit. Par rapport à une fille, il peut recevoir des kiddushin pour elle. Bon, si quelqu'un donne des kiddushin et qu'elle est encore mineure, il peut recevoir c'est lui qui accepte ou non de la donner en mariage, et l'argent qui est donné par exemple dans le cadre du mariage, en fait c'est une prouta, c'est trois fois rien, mais ça c'est à lui, il a le droit de le garder. Mais pour le reste, la paternité n'est qu'une suite d'obligations. Ça donne quasiment pas de droit que les obligations. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, je ne sais pas si ça tient la route, mais en tout cas, c'est ce qui ressort comme ça, en tout cas, au premier abord. Et le roi, en réalité, la royauté jusqu'à Shmuel, c'était une royauté comme celle-là. C'est-à-dire, il ne se donnait aucun droit. Il ne se sentait que au service d'eux. Au point qu'on a dit à Moshe Rabbeinu, bon, c'est bien ce que tu fais, mais finalement, on peut faire mieux. Parce que toi, tu es là, tu sièges du matin au soir, tu es à la disposition des Bnei Israël, mais il faut qu'ils viennent chez toi. Tandis que Shmuel, c'est lui qui va chez eux. Donc tu vois, on peut faire mieux. Shmuel fait mieux que Moshe Rabbeinu. Une espèce d'amour du clan Israël, de cet être au service du clan Israël. Un roi, par la suite, il va se servir du clan Israël. Les rois vont se servir du clan Israël. Dès qu'ils auront une cour, alors ils auront une armée, ils ont toutes sortes de choses. C'est leur armée. Moshe Rabbeinu n'a pas une armée en permanence. Quand il faut faire la guerre contre Amalek, il dit à Yoshua, essaie de ramasser les gens. Et c'est ça qui le qualifie, ce roi, Moshe. Issa bracham et Hashem. Zé Moshe. Ici, il n'y a pas de pasouk. Qui nous dit que Issa Abraham est Hachem Zé Moshe? C'est surprenant, non? Pardon? Si. Bar Leva, il explique pourquoi comment il a pu dire Lama Yechere Hashem. Lama Hashem Yechere Abcha Be'Amecha. C'est la preuve qu'il est parlé. Le pasouk ne dit pas, mais on comprend que d'oser parler de cette manière-là, ça prouve que Libo Barour Alav. Donc on a tout travaillé avec des psukim pour arriver jusqu'à à chaque fois Zé Moshe, Zé Moshe, Zé Moshe. Et ici, Issa Bracham et Hashem, Zé Moshe. Point. Il y a le pasouk ne dit, on ne nous dit pas. Contre, si on lit Rav Tanhuma, alors on a une réponse. Rav Tanhuma, il dit, il ne faut pas lire Issa, il faut lire Yassi. Et ça, c'est ce que dit le Pasouk. Ça, c'est Vezot Abracha, Asher Berach Moshe. Notre Pasouk, c'est le Pasouk. Mais à condition de dire, non pas Issa, mais Yassi. Donc, il veut dire, pour éclairer ce verset de Vezot Abracha, Asher Berach Moshe, c'est comme si le Midrash, il avait un problème, en fait. Le problème, c'est que d'où est-ce qu'il a pris la Bracha, Moshe Rabbeinu? Vous voyez, par exemple, quand Yitzhak Avinu veut transmettre sa Bracha, qu'il appelle Esav, tout le monde explique que cette bracha, il veut lui transmettre la bracha qu'il a reçue de son père, d'Abraham Avinu. Alors, d'accord. Donc il a une source. Il prend la bracha qu'il a reçue d'Abraham et il va la transmettre. Alors vous pouvez poser la question, mais Abraham, comment il a commencé? Comment est-ce qu'Abraham peut commencer à bénir? On avait vu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Pardon? Abraham berach et Yitzhak. D'où est-ce qu'on sait? Vaïten Abraham et kol asher lo le Yitzhak. Et on voit ici que la bracha, nous, on a l'impression que la bracha, c'est quoi? C'est les biens. Ici, c'est le Midrash, il présente ça comme si c'était les biens matériels. Transmettre ce qu'on a, c'est ça la bracha. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Bon, il lui a donné la Bchora. D'où est-ce qu'on sait qu'il a donné la Bchora? A priori, il lui a donné de Kol Asher Lo, non? Il a donné tout ce qu'il avait. Alors Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia qui disent qu'il lui a donné la Bechora, on avait vu que c'était un jeu sur Bechor et Barech. C'est les trois premières lettres, les trois lettres de la racine, en quelque sorte, sont les mêmes, simplement dans un ordre différent. Bet Kafresh. Et de ce point, si on, maintenant, à la lumière de cette utilisation des mêmes lettres et de ce que dit Rabbi Yitzhak Hutner sur le Bechor, qui est un deuxième père, etc., dans la bracha, il y a cette idée ici d'un mot qui est construit avec des lettres qui veulent dire deux à chaque fois. D'accord? C'est-à-dire que la bracha, quand on donne une bracha, eh bien, on fabrique du deux, en quelque sorte. C'est le 1 qui fabrique du 2. Comment il peut y avoir du 2? Parce que le 1 lui a donné ce qu'il avait. Alors il a fabriqué un deuxième. Fabriquer un deuxième, c'est ça la bracha. D'après ça. Au départ, c'est comme ça. En faire un second, lui transmettre donc ce que j'ai. Alors ici, c'était un peu paradoxal parce qu'il lui a transmis la Bechora, c'est-à-dire la bracha d'être, bien qu'il soit second, de devenir premier. Pour se ajouter à ce qu'on avait dit la semaine dernière, bien qu'il en fait un second en lui donnant une bracha, mais il y a ceux qui disent, mais quelle bracha il lui a donné? La Bechora. C'est-à-dire, la bracha, c'est d'en faire un premier. Bien que tu sois second, qu'il était réellement Yitzhak, je fais de toi un premier. Et donc ici, qu'est-ce que Moshe peut, comment il peut donner une bracha? Il n'y en a pas. Il n'en a pas. Alors Abraham, Avinu, il a commencé parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a béni. Il lui a donné toutes sortes de... Il l'a béni matériellement. Il lui a dit, tu seras une bracha, donc Hachem lui a donné. Tu as une bracha. Donc il est une source de bracha. Et maintenant, ce que nous dit Tanchuma, ici Rab Tanchuma, ce Midrash, c'est que Moshe Rabbeinu devient lui aussi une source de bracha pour le peuple. Mais d'où il a cette bracha? Ben, c'est Hachem qui la lui a donnée. Qu'est-ce que c'est que cette bracha qui lui a été donnée? Quelle bracha est-ce qu'Hachem lui a donné? Ben, je crois qu'il lui a donné ça. Il lui a donné cette capacité de monter sur la montagne. Ces invitations, cette invitation qu'Hachem lui a donnée, on a vu qu'il était à la hauteur. Mais il est capable de monter. Il est capable de se tenir. Ben, c'est la source de sa bracha. Il est en cela, il est source de bracha. Et donc ça veut dire que ce qu'il transmet aux autres, c'est justement cette capacité de monter et la capacité de se tenir à ce niveau-là. Ce qu'il leur donne, ce qu'il donne aux Shvatim, Yassi, il prend cette bracha et il la leur donne. Comment il la leur donne? Quand il dit à Yechi Reuven Va'al Yamot, c'est-à-dire je te donne la vie, qu'ils vivent et qu'ils ne meurent pas, c'est-à-dire je te donne la possibilité de se tenir vivant quasiment, et que tes morts soient que mispar, qu'il n'y ait que peu de morts. Possibilité, c'est ce qu'il leur a donné. C'est pas qu'ils vont réussir obligatoirement, mais il leur donne la possibilité. Il leur dit comment. Il leur dit voilà, je te donne la vie en fait. Yechi, la parole d'Hachem en fait. Yechi Reuven beolam hazeh, va'liamut leolam haba. Et Rashi explique shelo yizacher lo ma'aseh bila. Qu'on ne lui rappelle pas l'histoire de Bila. Reuven, il a un handicap. Il ne peut pas vivre en réalité. Parce qu'il a, il y a ce problème de l'histoire qu'il s'est mêlé des affaires conjugales de son père. Il a quasiment empêché son père de vivre normalement comme il le voulait. Normalement, ça devrait le disqualifier. Et Moshe Rabbeinu nous dit: je te donne une bracha. Pour que tu puisses. Je te donne la vie, moi. Il faut d'abord avoir la vie. La première chose, c'est la vie. S'il n'y a pas la vie, on ne peut pas commencer. Et toi, pour toi, il faut d'abord qu'on te donne la vie parce que tu t'es disqualifié. Quelque part, tu ne mérites pas de vivre. Ensuite, il n'y a pas de bracha pour Shimon. Vous savez que Moshe Rabbeinu n'a pas donné de bracha à Shimon, parce que Shimon, c'est la tribu qui a produit qui est le descendant de Shimon, enfin, qui est le prince de la tribu de Shimon qui s'est à ce point disqualifié. Qui est-ce que Pinchas a embroché? Il s'appelait Oni, son nom c'est Oni. Hein? Oui. Ouais. Donc, en fait, cette tribu-là s'est disqualifiée complètement. Et Moshe ne leur a pas donné de bracha. D'ailleurs, ils n'ont pas de territoire non plus. C'est Yehuda qui a donné une partie de son territoire à Shimon. Et donc on passe directement à Yehuda. Zot li Yehuda. Et Rashi dit qu'il a juxtaposé Yehuda à Reuven parce que les deux ont reconnu la faute qu'ils avaient faite. Shnei modu al kilkul shebi adam. pas, Yehuda, c'est marqué que les ossements de Yehuda, ils n'avaient pas de repos, etc. Alors, quel bracha il lui a donné? C'est marqué donc, Vezot li Yehuda, Vayoma, Shema Hashem, Kol Yehuda. Alors, Rashi dit que c'est Tfilat David, David de la tribu de Yehuda. Donc, Kol Yehuda, c'est la voix de David. Shela Asa, Mipne Akushim, Yoshafat, Mipne Amonim, Cheskia, Mipne Sanheriv. C'est-à-dire que il fallait qu'Hachem écoute la voix de Yehuda. Quand les rois de Yehuda vont avoir des problèmes avec les ennemis, qu'Hachem écoute. Donc là aussi, il lui permet de tenir face aux ennemis. Et qu'il lui donne la paix, le shalom, par rapport à la guerre. Qui reviennent de la guerre en quelque sorte. Il y a une main puissante, les armées de Sarabtiye, etc. Bon, je ne vais pas maintenant énumérer, mais bon, ça vaut la peine de regarder quand même. Peut-être que je le ferai la prochaine fois. Non, c'est pas fra. C'était fait. C'est la... Moshe Rabbeinu, il parle ici à la fin de sa vie. Sa descendance, ça s'est fait. Donc, la bracha de Moshe Rabbeinu, celle qu'il reçoit, il mérite de recevoir d'Hachem. En fait, pour ça, on n'aurait pas de source. Pourquoi ? Parce qu'il ne l'a jamais reçu, au sens où il ne l'a jamais voulu. Il a immédiatement transféré la bracha qu'il allait recevoir, il la donne tout de suite au Bnei Israël. Issa bracha, Yassi bracha. On a à peu près la même chose, la même démarche, c'est pour terminer. Quand Moshe Rabbeinu a insisté pour entrer en Eretz Israël, alors, Hachem lui a dit non. Et puis, il a insisté. Et Chazal demande, qu'est-ce qu'il voulait Moshe? Il voulait entrer pour manger des fruits d'Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il voulait aller manger? Des oranges déjà faites? Qu'est-ce qu'il... Quel était son problème? Alors, on explique que Moshe Rabbeinu savait que les Bnei Israël allaient fauter, ça il le dit lui-même, ils allaient fauter, et que à ce moment-là, ils auraient besoin de mérite pour ne pas être détruits. Et ils allaient faire des fautes, et le mérite qu'ils pouvaient, ils ont compensé ces fautes. C'est le mérite des mitzvot qu'on fait en Eretz Israël, puisque les fautes sont faites en Eretz Israël, il faudrait des mitzvot liées à la terre d'Israël. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu voulait entrer en Eretz Israël pour faire les mitzvot qu'on ne peut faire qu'en Eretz Israël. Alors Hachem lui a dit, c'est ça que tu veux, je te le donne. Arrête de prier, tu n'entreras pas en Eretz Israël, mais je te donne le mérite. Alors, tout le monde connaît bien la question, c'est marqué dans Pirkei Avot, ne servez pas Hachem pour recevoir un salaire. Alors on voit Moshe, il servait Hachem pour recevoir un salaire, puisque dès qu'Hachem lui a dit je te donne le salaire, hop, il a arrêté. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le salaire que Moshe Rabbeinu voulait n'était pas pour lui. Donc quand on dit ne servez pas Hachem pour un salaire, c'est un salaire pour soi. Mais un salaire pour l'autre, là en l'occurrence c'est le clan d'Israël, Ça, ça pose pas problème. Ça, c'est tout à fait licite. Et donc, c'est le désintéressement de Moshe Rabbeinu qui va jusqu'à, en quelque sorte, insister pour entrer en Eretz Israël. Mais pourquoi finalement il veut absolument entrer en Eretz Israël? Pour le clan d'Israël. Pour ce qu'il pourra laisser au clan d'Israël, parce que les mérites qu'il a, lui, il les donne au clan d'Israël, en quelque sorte. Ça permettra au clan d'Israël de se sauver. Ici aussi, les brachot, la bracha qu'il devrait recevoir pour tout ce qu'il a fait. Il s'abracha met Hachem, avec toute cette conduite, cette bonne conduite. C'est, en fait, c'est Yassi. C'est comme si mon cher ami, non seulement il donne, mais il n'y a pas dans la Torah, qui est la nevoah de Moshe, il n'y a pas de point d'appui pour nous expliquer où on verrait que Moshe Rabbeinu a reçu une bracha. On ne voit pas. On voit seulement qu'il en a donné. On ne voit pas que Hachem berach et Moshe bakol, ou comme il a dit, comme c'est dit sur Abraham, etc. Voilà. Au point que si on voulait le Midrash qui cherche à chaque fois un pasouk pour Issa Bracha, ben il n'en trouve pas. Le seul moyen de dire que ça concerne vraiment Moshe, c'est de lire non pas Issa mais Yassi, et à ce moment-là ça veut dire donner la Bracha. Donc comme si Moshe Rabbeinu s'est placé en position d'attirer la Bracha sur lui, mais pour la donner au clan d'Israël. Et ce point-là, il reste encore ce que j'ai essayé de vous dire là sur comment une bracha qui est pour Moshe Rabbeinu, si vous voulez, comment est-ce qu'elle peut se ramifier? Parce que pour Moshe Rabbeinu, ce n'est pas une bracha si elle n'est pas ramifiée. C'est pas, si Moshe Rabbeinu, si ça n'est pas quelque chose qu'il va pouvoir donner au clan d'Israël, il ne verra pas ça comme une bracha. Il ne veut pas de bracha pour lui. Il est à ce point désintéressé qu'il ne veut rien pour lui. Donc si la bracha qu'il reçoit n'est pas une bracha qu'il peut redonner, en la ramifiant, en la donnant à chacun, en donnant à chacun ce dont il a besoin, ça ne s'appellera pas une bracha pour lui. C'est comme si on bénit quelqu'un avec une chose qui n'intéresse pas. Vous allez offrir un cadeau à quelqu'un, mais vous savez pertinemment que ça n'intéresse pas. Un cadeau. Voilà, on va s'arrêter là. Des biens matériels. Oui, je comprends. Je crois que oui. Je voulais. Enfin, bon, ça fait que c'est seulement. Est-ce que. Enfin, quand tu dis détaché, il faut dire. Vous la pouvez l'arrêter.